Comment ça va, Eric?
Ça va super bien, Greg. Pardon, c'est toi aussi?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Salut, Alex.
Salut, Eric.
Ouais, t'as cherché son nom?
Non,
salut.
J'ai pas dit parce que j'allais fermer son micro parce qu'au début, j'ai vu que t'avais besoin de.
Oui,
de...
c'est ça, j'avais un chat dans la gorge.
Fait que là, j'ai dit, je ferme-tu son micro, je ferme pas son micro, puis il m'a dit salut. Je dis, ah, salut, salut, Eric.
Un vrai pro.
Ouais, des belles couleurs, Greg.
Ouais, ouais. Ben, en fait, je remplace mon chum Tony. Fait que j'ai mis mon chandail de
Tony. Je parlais
pas
du t-shirt.
Ah, tu parlais de quoi?
Je parlais de l'ensemble de l'œuvre.
L'ensemble de l'œuvre? Ok, tu parles des bras qui suivent.
Ouais, c'est ça.
Hier, c'était belle cause pour la cause.
Ouais.
Puis la santé mentale, je l'ai dit en entrée de jeu dans l'émission, mais la santé mentale prend... C'est tout à fait correct. T'sais, ça n'a plus à être tabou de parler de ça. Il y a quelques années, ça l'était peut-être. Puis quand on commençait à avoir des athlètes qui mettaient un genou à terre, tout sport confondu, disaient « j'ai besoin de prendre une pause pour ma santé mentale ». Hier, on a vu... Ben, en fait, il y a Patrick Laine qui est en entrevue.
Paddy Ice.
Sur Paddy Ice. J'adore ce surnom-là. Il a posé la question « as-tu un nouveau surnom? » Il dit « au début, c'était Paddy. Après ça, c'était Paddy Ice. Après ça, mais j'aime bien Paddy Ice. » Fait qu'on verra si on va commencer à l'appeler de même ici à Montréal. Mais ses coéquipiers, ça a l'air être le surnom qu'on lui a donné. Il y a eu Samuel Poulin également, qui est dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Il y en a plein. Et pour différentes raisons, c'est correct qu'on en parle de plus en plus. Puis ça ne doit pas être tabou. Par contre, peut-être que ce n'est pas toutes les ligues qui suivent la parade ou encore tous les dirigeants d'organisation non plus, Eric.
Ben clairement, puis c'est encore tabou, moi, je pense. C'est encore tabou. Il y a des athlètes qui ont le courage de sortir puis de parler. Il y a des personnalités connues, on a entendu plusieurs hier, tu parlais de Samuel Pinet, mais il y en a d'autres, qui vont parler de leurs expériences parce qu'ils veulent sensibiliser les gens à ce défi-là. Puis, mais c'est encore tabou parce que tu entends des athlètes qui disent « ça m'a pris du temps avant de le réaliser, ça m'a pris du temps avant d'aller chercher de l'aide, encore maintenant. Mm-hmm. » Fait que c'est pas tout le monde. Il y en a qui, oui, vont faire le pas parce que, comme il l'a bien expliqué, l'année, il était rendu à un point de non-retour. Tu comprends? Il l'a expliqué dans
le... Il a failli arrêter de jouer au hockey.
Il ne savait pas s'il allait recommencer à jouer au hockey.
C'est incroyable à penser à ça deux secondes.
En effet. Mais quand tu es devant un mur, quand tu es devant cette noirceur, tu ne sais pas que tu vas t'en sortir. Tu comprends? Puis c'est un aspect important parce que dans notre quotidien maintenant, Greg, les athlètes, ils ont énormément de pression. Puis là... je ne veux pas parler d'argent parce que je sais que les gens vont dire « ben oui, mais ils sont bien payés ». Puis vous avez raison. J'essaie pas de défendre qu'un athlète ne devrait pas avoir de défis de santé mentale parce qu'ils sont bien payés. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'avec les réseaux sociaux puis avec tout ce qui se passe présentement, ça va vite dans la vie. Puis je suis pas convaincu que ça va aller mieux en allant. Ceci étant dit, il y a plus d'outils. C'est ça qu'on a appris de Patrick Laine. Il consulte un psychologue 3 fois par semaine.
Ouais.
3 fois par semaine.
Ouais.
Il y a les moyens. C'est pas tout le monde qui a les moyens.
Non, ça c'est sûr.
C'est pas tout le monde qui a les moyens. Il y a les moyens, c'est parfait. Mais moi, ce que je voulais t'amener ce matin, c'est la santé mentale, dont on parle beaucoup depuis hier, et on parle beaucoup depuis quelques années, versus l'attitude, versus l'aspect mental de la game. Puis hier, je suis pas en mesure de pouvoir nommer qui, parce qu'on m'a invité dans une conférence, puis j'ai pas la permission d'en parler, mais je vais te dire, dans cette conférence d'un des personnes ressources les plus importantes en Amérique du Nord, à des instructeurs de hockey, importants aussi, dans un organisme à 1 million de créatifs important, il a nommé l'exemple d'un joueur de la Ligue nationale qui a une belle carrière. Fait que c'est pour ça que je peux pas le nommer, mais c'est pas un gars de Montréal, mais c'est un gars qui a fait quelques équipes, mais il a une belle carrière. Puis il travaillait avec, puis tu vois qu'il y a la santé mentale, mais il y a l'aspect mental aussi. Il faisait plusieurs matchs qui comptaient pas. Il était sur le 4e trio. Il l'appelait tous les jours. J'ai de la pression. Et là, il a dit, écoute, si t'as tant de pression que ça, si t'amuses pas, abandonne. Arrête. Puis c'est un gars établi la Ligue nationale.
Ouais.
Fait que,
t'es pas obligé de faire ça.
T'es pas obligé de faire ça, là.
Et ça dépend tout le temps de comment l'individuel va réagir à ça. Il y en a qui vont réagir de façon positive à se faire, pas provoquer, mais donner un petit choc. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben, les choses en perspective. Tu comprends? Tu peux contribuer à une équipe, mais en même temps, ce que ça m'a donné comme réflexion, Greg, c'est à Montréal, si je ramène ça à Montréal, quand un joueur, Josh Anderson, l'année passée, à quel point on s'exprimait ouvertement sur le fait qu'il comptait pas de but. Était-il encore utile à l'équipe?
Ouais.
Fait que moi, je fais le parallèle avec ce joueur dont je te parle, qui comptait pas depuis plusieurs matchs, là. Beaucoup de matchs. Il est quand même... Il a quand même aidé son équipe à aller en finale de la Coupe cette année. Fait que c'est un des joueurs, soit des Panthers ou des Oilers.
Tu sais, tu parles de cet aspect mental-là, puis tu as parlé des médias sociaux aussi. Mm. Et tu sais, les athlètes, pour moi, ont cette opportunité-là de... Tu sais, que Patrick Laine en parle, je suis pas mal certain, et on donne cet exemple-là, je vais en donner d'autres aussi, que ça va aider d'autres jeunes à se dire « Hey, je suis pas tout seul. » Patrick Laine a une plateforme formidable. Je te donne un autre exemple, si on s'en va dans la NFL, et du double tranchant des médias sociaux. Les médias sociaux peuvent propulser un athlète. Tu sais, là, Patrick Laine, tout le monde à Montréal l'aime. Il a dit qu'il a jamais été aussi heureux de sa carrière, puis on viendra dans quelques instants avec la clip de John Tortorella puis sur l'influence des entraîneurs-chefs dans tout ça. Mais tu sais, le botteur des Commanders de Washington qu'on
Gonzalez.
Va voir en fin de
semaine. Gonzalez.
Qui est arrivé pour... On l'a vu à la caméra, là. Ah, c'est imagine, caméra à la grandeur des États-Unis. Là,
ouais.
Et du Canada aussi. Et là, tu le vois, lui, il a un trouble obsessif compulsif de placer ses cheveux.
Ouais.
Et tout ça rentre dans sa préparation avant d'aller... faire ce qu'il doit faire. Lui, il a un botté. Là. Il peut pas se tromper sur le seul jeu qu'il doit faire. Et là, c'est de mettre son casque au bon moment quand il a placé ses cheveux. Ah non, ils sont pas assez placés correctement. Je l'ai pas fait assez de fois. Et il y a des gens... Moi, le premier clip que j'ai vu de ça, c'est hey, regardez tout ce travail-là pour aller manquer le botté. Ou pour presque manquer le botté parce qu'il a touché le...
Ouais.
Faut faire attention. On ne sait pas ce que les gens
arrivent.
Dans le casque, là, on le sait pas,
non,
justement.
On le sait pas. Puis je reviens à Josh Anderson, comment qu'on l'a... Ben, certains d'entre nous l'ont beaucoup critiqué parce qu'il comptait pas de but. Tu sais, on sait pas ce que Josh Anderson vivait non plus. Mais mon lien, Greg, il est important. Il y a la santé mentale, un gars comme Laine, puis il y a l'aspect mental. L'aspect mental dont Martin Saint-Louis en parlait hier.
Ouais.
Tu comprends? Et c'est ce qui fait que des gars comme Crosby, McDavid, Ovechkin, eux autres, ça leur a permis d'être constants. Parce que leur aspect mental, il était sain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des moments où ils avaient des obstacles devant eux, des moments de découragement. Mais ils avaient une discipline, ils étaient bien encadrés, puis il y avait une force. Tu sais, on parle beaucoup de la Mamba mentality de Kobe Bryant.
Ouais, exact.
Qui a travaillé avec Todd Herman, un des spécialistes de l'aspect mental. Mais c'est probablement quelque chose qui avait dîné anyway. Tu comprends? Michael Jordan, on l'a vu dans le fameux documentaire de Last Dance, quand Phil Jackson il a dit « Écoute, Dennis Rodman, il va avoir une pause, il a besoin d'une pause, il faut que ça aille à Vegas. » Et Jordan, il a dit « Non, qu'il a besoin d'une pause, c'est moi. Si tu le laisses partir, il ne reviendra jamais. »
C'est fou, ce documentaire-là.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi l'aspect mental dont Martin Saint-Louis, pour moi, a contribué pour plusieurs des jeunes joueurs, parce que c'est pas facile à Montréal. Fait qu'il y a ces deux aspects-là. Tu sais, puis tu parlais de tic, de toc. Raphaël Nadal, avant chaque service. Regarde, toi, tout son rituel.
Exactement, mais ça, c'est le côté sain.
Ils ont besoin.
Entre guillemets, ils ont besoin de ça pour se conforter, mais ça peut s'en aller. Et la ligne est mince.
La ligne est très mince.
Entre état mental et justement un problème
un défi,
de santé.
Un défi de santé mentale.
Il y a un préparateur mental, Jean-François Ménard, qui m'avait déjà parlé, qui est bien connu, on l'a eu souvent en onde ici, collaboré à mon show cet été, qui m'avait déjà mentionné Michael Kingsbury avant de descendre aux Olympiques. Là.
Mm-hmm.
Y en a-tu de la pression, lui, tu penses?
Tout à fait.
Avant une descente de médaille d'or là, pour aller chercher sa médaille. Et on y échappe pas à cette pression-là quand on est un sportif de haut niveau. Les entraîneurs-chefs ont un grand rôle à jouer là-dedans. On a une petite discussion là-dessus. Je vais te faire entendre les commentaires de Patrick Laine rapidement sur la première fois qu'il a rencontré John Tortorella.
Torts, he was your coach for a hot minute in Columbus. Now, did you have any infamous blow-ups with him? Like, was there ever any? I don't remember anything in particular, like going like in the media or anything.
Yeah, it was interesting. I think they were on a road trip when I got to Columbus, and because you had to like quarantine for a couple of days when you entered the country, so I was skating by myself. I met everybody. It was a morning skate before a game, and I've never met Torts before in my life. The only thing he says to me, not even a hi, he just says, don't fuck it up tonight. I'm like, okay.
Et les histoires des jeunes joueurs, même talentueux, qui se font pas adresser la parole par leur entraîneur-chef. Je veux dire, comment tu te sens? Il y a des joueurs qui ont besoin de cette attention-là. On a parlé de Pierre-Luc Dubois en début d'émission, là, qui s'est confié à Mathias Brunet, puis Mathias a écrit un super bel article là-dessus. Spencer Carberry a appelé Pierre-Luc Dubois lorsqu'il a été échangé cet été. Il l'a appelé, comment ça va, toi? Juste de jaser pendant quelques minutes sur le type de personne qu'il est, ce qu'il aime dans la vie, tout ça. Et c'est la première fois de ma carrière dans la Ligue nationale qu'un entraîneur-chef daignait me poser des questions humaines. Après ça, tu te sens comme... Tu sais, on voit des entraîneurs... Martin Saint-Louis, je suis certain, fait partie de ces entraîneurs-là. Et Caden Goulet l'a dit pas plus tard que... C'était-tu la semaine passée? On veut jouer pour lui. On veut jouer pour notre entraîneur-chef. Donc, fait partie de ces fameux entraîneurs qui ne sont plus... Je veux pas dire de la vieille école, mais qui sont plus humains, si on veut. Pas que Torch l'est pas, mais peut-être... Et Torch, je pense, s'est ajusté avec les années également. Là. Mais, tu sais... Alexis Lafrenière, je pense que ça a été la même chose avec les Rangers au début. Les entraîneurs-chefs. Donc, l'entraînement un peu plus à la dure, je pense que la nouvelle génération correspond moins à ça.
Ouais. Tu sais, Tort, c'est comme Belichick. C'est une école de pensée qui dit, Belichick, c'est do your job, c'est sois responsable, fais ton travail. Mais il y a plus que ça maintenant, tu comprends? Parce que ces jeunes-là...
Mais Belichick était beaucoup aimé de ses joueurs.
Ben moi, je peux te dire que Belichick est extraordinaire sur un terrain de pratique parce que moi, j'ai été assisté plusieurs fois au camp d'entraînement. Moi, je me promenais. Là. Je faisais mon road trip au mois d'août. Là. Je me promenais entre les Pats, les Giants et les Jets. J'allais voir ça avec mes gars. Là. On achetait des billets puis on allait voir ça. Écoute, Belichick, là, c'est là que j'ai changé d'opinion par rapport aux Pats. Belichick est complètement différent sur un terrain pendant le camp d'entraînement que quand il rencontrait la presse. Ceci étant dit, Belichick n'était pas nécessairement le gars qui avait des grandes conversations philosophiques avec ses joueurs. Tu comprends? Alors que Martin Saint-Louis, quand on lui reprochait Martin Saint-Louis, et je lève la main, j'étais un de ceux-là qui disait « ça prend du hard coaching, excusez-moi l'anglicisme, mais ça prend que tu sois un peu plus rigoureux envers les joueurs, leur donner des conséquences », ben force est d'admettre que lui, il savait où il s'en allait avec ça. Il savait quel type de joueur il y avait. Puis il s'est dit « moi, je suis en train de travailler l'aspect mental de cette équipe et de chaque joueur. Je sais ce que Kirby Doc a besoin. » Puis regarde les résultats que ça donne. À long terme, on va voir ce que ça va donner. Tu comprends? Quand il a décidé de ne pas punir Cole Caulfield parce qu'il est allé donner un coup de hache devant l'arbitre, puis qu'il a donné 2 minutes, qu'il a obtenu 2 minutes, il savait ce qu'il faisait à ce moment-là. Tu comprends?
Ouais.
Alors, c'est du cas par cas. Par contre, quand il décide qu'il ne fait plus jouer Struble après 2 pénalités, c'est sûr que quelque part, tu dois dire « Ouais, c'est pas une vedette, c'est le 7e défenseur de l'équipe, c'est plus facile de le cibler. » Mais il sait, lui, les conversations qu'il y a avec Struble, il dit « Hey, tu peux pas te permettre de faire ça. » Tu comprends? Parce que tu contribues pas assez comme Caulfield contribue.
Oui, notamment ça, mais Cole Caulfield avait pas besoin d'avoir une conséquence de son coach. J'étais dans le vestiaire après ce match-là. Je suis allé la poser la question à Cole Caulfield sur sa pénalité.
Ouais.
Je peux dire qu'il n'était pas content.
Exact. Il a réagi.
Il n'était pas content, mais au début, je me disais, mon Dieu, est-ce que j'ai mal posé ma question ou quoi que ce soit? Puis toutes les questions, il n'était pas content après lui, même si c'était une victoire.
Mais tu comprends qu'à chaque présence sur la glace, si on parle de hockey, là, comme je reviens encore à la conférence à laquelle j'ai assisté hier, le psychologue là, nous disait qu'à chaque présence, le joueur doit revenir au banc puis il doit faire un « reset ». Tu comprends? Parce que ta présence avant, elle n'était pas exactement comme tu voulais qu'elle soit.
Comme on dit dans Ted Lasso, qui est tout un entraîneur-chef.
Oui.
Savez-vous c'est qui le poisson le plus heureux? Le poisson rouge.
Parce qu'il oublie.
Il oublie après 10 secondes.
Exactement. Bon, c'était la force de Jordan. Il oubliait. Tu comprends? Exact. Il oubliait. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est important pour ces gars-là. C'est là que tu as une constance. C'est là qu'un Suzuki est constant. Tu comprends? Ovechkin, Crosby. C'est des athlètes qui ont, premièrement, une passion et un amour du jeu.
Absolument.
Puis c'est pas tous les athlètes qui ont cette passion et cet amour-là. Ça, je peux te le confirmer.
Oui, tu l'as ajouté.
Moi, je veux juste ajouter quelque chose par rapport aux entraîneurs. Vous parliez tantôt, tu sais, souvent, on parle de la vieille mentalité puis des coachs qui sont recyclés à travers la ligue. Puis on pense à Spencer Carberry. On parle de Martin Saint-Louis, là, avec les jeunes Canadiens. Remarque, on parle de Torts dans un mauvais exemple avec Patrick Laine, de la pression qui est mise sur un jeune. Ça vient aussi avec la nouvelle mentalité, tu sais. Les nouveaux coachs, de pas amener de l'idée de recycler ou la vieille mentalité de dire « Hey, c'est un jeune, il va faire sa place, il va se prouver. » Pourquoi on fait ça? Pourquoi l'ancienne mentalité est basée là-dessus? Pourquoi on accepte encore ça? Parce que je comprends qu'il y en a que c'est leur façon de faire. Mais à un certain point, quand tu veux t'intégrer dans une équipe, tu travailles avec tout le monde puis tu considères tout le monde, entre guillemets, égal. Si tu veux faire partie d'une équipe, tout le monde va être égal. Il va y avoir des meilleurs joueurs, il va y en avoir qui vont être plus considérés. Mais quand tu arrives dans une équipe comme un jeune, puis que tu as un coach qui est un vétéran, un vieux coach dans la ligue qui t'offre cet accueil-là, je suis sûr que tu te sens pas intégré. Par exemple, si tu as l'exemple de Carberry tantôt avec Pierre-Luc Dubois, que tu reçois un appel, que tu te sens intégré, qu'il prend tes nouvelles, tu as l'impression d'avoir créé un lien, ça va pas mal plus te tenter puis être motivé.
Mais c'est pas tous les joueurs.
Ça, c'est mon avis.
C'est pas tous les joueurs qui sont de même. Il y en a, j'imagine, leur coach l'appelle. Hey, comment ça va, toi? T'sais? T'as-tu un chien? Quoi qu'il m'appelle, lui-là?
Il y en a qui s'en foutent, mais juste de te faire accueillir de la bonne façon, je trouve que ça vient beaucoup avec la nouvelle mentalité plutôt que l'ancienne.
Je sais que dans le retour des sportifs, ils ont fait un débat la semaine dernière sur Mike Babcock, notamment. Là, t'sais, avec la façon qu'il traitait les jeunes et aussi la façon qu'il a traité Mike Modano à propos de son 1500e match dans la Ligue. T'sais. Ça, c'est une autre affaire. De retour avec Éric Auziel dans Le Forum. Avec pas de Tony Marinaro, Tony sera de retour lundi, on le salue et on l'aime.
Mais en fait, Tony, il n'est jamais parti, il est dans notre cœur, tout le temps.
Oui, c'est ça, c'est vrai.
On était à la pause, puis on n'a parlé que de Tony.
C'est incroyable.
C'est l'hommage qu'on fait indirectement à Tony.
Quel homme.
C'est un homme qui prend beaucoup de place.
Quel homme. Je pense que je vais me prendre un petit cannoli après le show, là, juste pour me féliciter. Je vous l'ai dit, je fais des leçons de Duolingo en italien, je suis rendu au niveau 4, ça va bien mes affaires. La Bills Mafia. Et la base de partisans. D'ailleurs, je vous salue. S'il y a des fans des Bills qui nous écoutent, je vous salue et je peux vous dire que je suis à 100% derrière votre équipe en fin de semaine contre les Chiefs de Kansas City. C'est pas la première fois qu'ils font des beaux gestes, la Bills Mafia. Et ils en ont fait encore une fois suite à la victoire contre les Ravens de Baltimore en championnat
d'Italie. Oui, il y a un des partisans qui a commencé à ramasser de l'argent pour une cause, une fondation à but non lucratif que Mark Andrews a commencé par rapport au diabète de type 1.
Ouais.
Mark Andrews, ça va être un hiver très long pour lui. Parce que Mark Andrews est un des meilleurs ailiers rapprochés de la Ligue nationale de football.
Absolument.
C'est un gars qui a des mains sûres, qui a eu, malheureusement, le destin a fait qu'il a échappé le ballon. Mais c'est pas là qu'ils ont perdu le match, selon moi.
C'est un ensemble de facteurs.
Il y a eu des revirements avant ça. Puis il n'aurait qu'égalisé la partie. Là.
C'est ça.
C'était pas gagné. Là.
Lamar Jackson a été le premier à défendre Mark Andrews.
Oui.
Et à se mettre le blâme sur lui
Jim
aussi.
Jim Harbaugh aussi, c'est la bonne chose à faire. C'est un coéquipier important. Puis c'est ce que tu veux faire. C'est la bonne chose à faire. Mais sûrement qu'ils se sont dit, comment ça que t'as échappé le ballon? Même tu l'échappes jamais le ballon. Mais ça arrive, c'est le destin, tu comprends? Fait que là, il y a quelqu'un qui a commencé à ramasser de l'argent pour cette cause-là, pour dire, hey, Mark Andrews, on est content d'avoir gagné, mais ça reste que du sport. Puis on sait que ce que tu vis. Tu sais, on parlait de l'aspect mental tantôt, là.
Ah, Mark Andrews a reçu des menaces de mort, là.
Ben.
Suite à avoir échappé le ballon.
Ben c'est le moins bon côté des réseaux sociaux.
Exact.
C'est que là, maintenant, il tu peux t'exprimer
des,
en temps
des,
réel
des insultes,
tout le temps.
Tout ce que vous pouvez imaginer,
ça,
là.
Exactement. T'sais. Alors, puis on veut tous aussi que les Bills remportent ce Super Bowl parce qu'ils l'ont jamais remporté et ils l'ont perdu 4 fois de suite. Des années 90.
Ça, c'est incroyable.
Avec Jim Kelly.
C'est incroyable.
Bruce Smith. Thurman Thompson. Tu comprends? Marv Levy. Fait qu'on veut voir les Bills. Donc, c'est un beau geste. C'est un geste important. Ça reste du sport. Puis, tu comprends? C'est peut-être aussi pourquoi que le Super Bowl qu'ils vont finir par gagner, si Mark Andrews joue pour les Ravens, va être encore plus extraordinaire.
Ben oui, il faut.
Tu comprends?
Il faut. Je te le dis, un jour, ça va arriver. Lamar Jackson à Mark Andrews.
Ils vont finir par se rendre au Super Bowl, je pense.
Ouais. Et bref, il y a beaucoup d'athlètes qui ont des fondations, qui représentent ou qui sont partis des fondations. Et Mark Andrews, tu l'as dit, le fait pour les jeunes qui sont atteints de diabète de type 1, comme lui. Oui. Lui, il s'est rendu à la NFL, ce qui n'est pas mince tâche, là, mm-hmm. est atteint de diabète de type 1, l'a fait. Et la Bills Mafia qui ont vu que... Ils recevaient des insultes.
Oui.
On pris ce qu'on a vu, ce qu'on voit de pire sur les médias sociaux, puis on a vu le meilleur encore une fois de leur part.
Oui. Tu sais que les partisans, tu parlais des partisans des Bills qui sont extraordinaires, mais les partisans qui voyagent le plus dans la Ligue nationale de football, c'est les partisans des Steelers. C'est connu. C'est ceux qui voyagent le plus, c'est ceux qui sont tout le temps sur les matchs, sur la route des Steelers. Mais les partisans des Bills sont loyaux.
Ouais.
Tu sais, les Steelers, ils ont gagné. Les partisans des 49ers, ils ont gagné. Les partisans des Pats, ils ont gagné. Les partisans des Bills, ils n'ont jamais gagné.
Non.
Ils n'ont jamais gagné. C'est pour ça qu'on voulait tous voir les Lions. Parce que ça faisait depuis 1957 que les Lions n'avaient pas gagné.
Hey, Lions-Bills, ça aurait été incroyable.
Les Lions-Bills, ça aurait été très, très bien. Mais
là, Bills contre n'importe qui des deux équipes, ça va être un très beau Super Bowl aussi.
Oui. Alors, bravo à Mark Andrews qui doit pas vivre des moments faciles. Ça, c'est clair, là. Tu comprends? C'est un compétiteur. Puis tu veux pas non plus que ça soit une jeune recrue à qui ça arrive. Je veux dire, il y avait personne, il était tout seul. Il l'a échappé. C'est cruel, le destin, des fois. Pourquoi c'est arrivé à lui?
Le montant que la Bills Mafia a donné, c'est tous les fans des Bills se sont réunis pour aller remettre de l'argent à la fondation de Mark Andrews. Hier soir, le GoFundMe était au montant de 60 000 $ US.
Quand même!
C'est incroyable, là. C'est des gens qui prennent de leur argent...
Voilà.
Pour envoyer ça à cette fondation-là.
Tu vas me dire que c'est facile de donner quelques dollars quand ton équipe joue encore. Ceci étant dit, c'est un beau geste. C'est un geste qui mérite d'être souligné.
C'est pas la première fois, là. Ils l'ont fait avec Andy Dalton aussi.
Ouais.
Lorsqu'Andy Dalton avait battu les Ravens, ils avaient donné plein de... Ça avait permis aux Bills de rentrer en éliminatoire.
On en
notamment.
Connaît ici, nous, des partisans des Bills sont très loyaux, sont
fou.
Très passionnés. Mais je pense que ça s'applique à tous les partisans de toutes les équipes en général.
Bob Genet, notamment, oui. Avec qui j'ai eu des discussions en fin de semaine, qui m'a appelé. Il a dit, je suis désolé pour tes Ravens, ça a été tout un match. Je peux pas te laisser partir, Eric, avant qu'on parle de rapidement. Lewis Hamilton qui s'en va chez Ferrari. On vous rappelle, 11h30, on aura un journaliste français, Frédéric Ferret, de l'équipe en France. Tu voulais glisser un mot quand même là-dessus parce qu'on essaie de faire des parallèles. Puis vous pouvez y aller 514-790-0919 sur la messagerie texte sur notre YouTube Live. Quel comparatif on peut avoir d'un des plus grands, sinon le plus grand de l'histoire, qui s'en va joindre la meilleure équipe ou l'équipe la plus iconique de l'histoire qui n'a pas gagné depuis plus de 15 ans?
Il n'y a pas beaucoup de comparatifs, Greg. Je t'écoutais avec les gars du matin. Puis ça, c'est personnel, c'est subjectif et c'est pas la science infuse. Moi, je te donne mon opinion, ma vision des choses, la façon que moi, je la vois. Pour moi, il y a au basket, c'est une équipe seulement, les Celtics. C'est l'équipe originale. C'est la plus grande avec Red Auerbach. C'est la plus grande équipe. C'est l'équipe mythique. Les Yankees. Oublie ça, il n'y a personne d'autre. Même pas les Dodgers. C'est les Yankees. C'est le Canadien de Montréal. Et au football, tu pourrais dire les Packers, les Bears ou les Giants. Même pas les Cowboys. Les Cowboys n'étaient pas une des équipes originales de la Ligue nationale de football.
Mais imagine si Tom Brady...
Avec les Packers ou les Bears. Je te le dis. Et c'est pour ça que, oui, c'est les seules équipes mythiques. Les Packers, Lambeau Field, Vince Lombardi. C'est pour ça que Jim McMahon et les Bears en 85, quand ils ont gagné le Super Bowl, Walter Payton, le Fridge, parce que tout le monde parle, tu sais, des fameux joueurs de ligne, sixième joueur de ligne, donc Dan Skyper avec les Lions puis d'autres équipes. Mais les Bears avaient leur joueur de ligne, William Perry, le Fridge, numéro 72, qui était comme un porteur de ballon. Tu sais, mais les Bears, c'est mythique. Je te parle pour les partisans de football. Alors, ce que Lewis Hamilton fait, c'est à peu près comparatif à, je pourrais te donner un comparatif, A-Rod qui est allé avec les Yankees, Reggie Jackson qui est allé avec les Yankees.
Mais A-Rod, est-ce qu'il fait vraiment, est-ce qu'on peut l'étiqueter comme dans la conversation?
A-Rod était peut-être le meilleur arrêt court de tous les temps. Écoute, c'est un jeune qui est arrivé, qui a explosé. Parle à Ken Griffey Jr. Il était extraordinaire avec les Mariners. C'est pour ça qu'on lui a donné un contrat de 10 ans, 250 millions. Ça s'était jamais vu dans le sport professionnel. Et Rod, son héritage a été teinté après par sa personnalité et par les accusations de substances illégales. Mais avant, quand il est arrivé avec les Yankees, là, c'était pas Derek Jeter qui était à l'arrêt court. Oublie ça, il était encore à l'arrêt court. Il s'est retrouvé au troisième but. Oublie ça, A-Rod, c'était le meilleur joueur de baseball à ce moment-là.
Il y a des gens qui parlent de Ohtani, par exemple, avec s'il avait été avec les Yankees.
Les Dodgers, autant c'est une équipe que j'aime, c'est pas les Yankees. 27!
Non, c'est effectivement. Moi, je te parle... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Crosby à Montréal.
Oui.
T'sais,
oui.
Ça pourrait être ça.
Ça serait exactement ça, parce que Crosby a eu une carrière extraordinaire. Tu sais, on parlait de Jonathan Toews, là, qui peut-être pourrait faire un retour au jeu.
Imagine si Sidney Crosby arrive avec le Canadien et remporte une Coupe Stanley.
Exact.
T'sais, là, faites pas de clip avec ça, les médias sociaux. Là, c'est pas quelque chose que j'affirme. Non, c'est un comparatif qu'on fait.
C'est parce que ce qu'on essaie de dire, puis je partage ton opinion, c'est gros. Hamilton avec Ferrari, c'est gros. Parce que Ferrari, tu peux dire que McLaren, tu peux dire que Red Bull, tu comprends? Tu peux dire qu'il y a plein...
Mais Ferrari, c'est l'écurie la plus iconique. C'est l'écurie de Formule 1. C'est eux.
Si tu fais un film sur Red Bull, tu commences en 2003. Tu fais un film sur Ferrari, là. Tu vas commencer au 20e siècle, il y a très longtemps.
Ben oui.
Tu comprends?
Exact.
Puis là, tu regardes toute cette histoire-là. C'est ça qui est question. Les Packers, les Giants, les Bears. Pas les Cowboys. Les Cowboys sont devenus l'équipe des États-Unis dans les années 70. Parce que les Steelers et M. Rooney ont dit « Non, j'en veux pas de cette étiquette-là. » Fait que monsieur, à l'époque, les propriétaires des Cowboys ont dit « Nous autres, on va la prendre. » Mais c'est la NFL qui recherchait une équipe pour dire « On va vous appeler l'America's Team. »
Pierre Lambert du National au Canadien, ça.
Ben, c'est pas mal ça.
Tu as un mot là-dessus?
D'ailleurs, oui, j'ai un mot. C'est drôle que tu me dises ça. J'en profite pour dire que je vais être... Je fais une petite tournée de la Ligue junior majeure du Québec la semaine prochaine, Shawinigan, Victoriaville et Sherbrooke avec Pierre Lambert.
Ah oui, avec l'ancien coach.
Avec Carl, on est trois. Avec Robert Marien, on va aller voir, on va donner l'aliment partant dans les vestiaires.
Ah, c'est normal.
Ils l'ont fait l'année passée avec les gars de Slapshot, les frères Hanson. Ça va être nous autres. La semaine prochaine, je vais me promener dans plusieurs équipes de la Ligue junior majeure du Québec.
Vas-tu avoir ton chandail du National?
Exactement.
Avec Templeton dans le dos?
Exactement.
C'est incroyable. Il y a des gens tantôt quand on...
Je peux-tu en avoir un signé de ça, moi? Ça existe-tu?
Ben, j'en ai déjà promis un à Tony que je vais y amener.
Combien ça coûte?
Ben, il m'en reste pas beaucoup. Je les garde pour des occasions. Puis Tony fait partie d'un regroupement où il y a une œuvre de charité puis il y a un encan. Tu le sais, tu étais là quand j'en ai parlé à Tony, je vais y en donner un. Ouais.
Incroyable. Mais mettons, moi, là.
Ouais.
Je veux en avoir un signé.
Ah, signé, ça te coûte rien.
Combien faut que je donne à une fondation pour avoir un des chandails de Templeton?
Ah, oh, je pense pas que Templeton, ça coûte très cher, là. T'sais, je pense pas que. C'est pas Pierre Lambert, c'est pas Marc Gagnon. Là. Templeton, c'est un personnage.
Ben, avec tout le respect que j'ai pour Marc Gagnon et Pierre Lambert, là, c'est pas mes amis.
Non, d'accord. Eric Causière, c'est mon ami. On s'en parlera en ronde.
Ok, on s'en reparle.